Moi, j'ai appris mon métier. Alors, ça peut paraître très paradoxal. J'ai appris mon métier de mes patients. C'est en écoutant mes patients que j'ai été plus extrémiste dans ma façon de prendre en charge les apnées obstructives du sommeil. Et à chaque fois que je discutais avec un patient qui me donnait des idées, j'allais puiser, chercher, je voyageais, je rencontrais. Et pour moi, c'est une chance.
Bienvenue à tous sur Et surtout la santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes à Paris avec Eric Solium qui est chirurgien maxillofacial et qui s'est spécialisé depuis de nombreuses années dans la guérison de l'apnée obstructive du sommeil. Effectivement, si vous connaissez brièvement le sujet sans l'avoir vraiment creusé, vous n'êtes peut-être pas au courant que l'apnée du sommeil peut se traiter via une chirurgie. C'était mon cas jusqu'à ce que plusieurs patientes m'expliquent qu'elles avaient eu recours aux compétences d'Eric pour traiter leur apnée du sommeil. Vous me connaissez, j'ai donc cherché à comprendre et j'ai découvert Eric Solium, via son livre notamment, et suis allé le voir toute une journée au bloc pour comprendre comment il était possible de prendre en charge cette pathologie et la régler de manière définitive. Ce podcast va ainsi potentiellement changer la vie de certaines personnes en leur faisant prendre conscience que leur machine à ventilation positive n'est pas forcément une fatalité. Pour cela, je vous conseille évidemment de prendre contact et d'en parler à votre médecin traitant. Et si ce dernier ne connaît pas la chirurgie dont on va parler tout au long de cet épisode, eh bien vous pouvez tout simplement lui suggérer d'écouter ce podcast. Pour information, Et surtout la santé est un podcast que j'anime depuis 5 ans, dont le but est de vous partager des informations en provenance directe de spécialistes qui ont pour la plupart dédié leur vie professionnelle à un sujet en particulier. Cela me prend donc du temps, de l'énergie et évidemment de l'argent. C'est pourquoi je sponsorise aujourd'hui le podcast avec la formation Ostéo et Sport, qui est une formation destinée aux ostéopathes désirant monter en compétences dans le domaine de la prise en charge du patient sportif. En plus de participer à des séminaires dispensés par des pointures dans le domaine du sport, cette formation vous permet d'entrer dans le réseau Ostéo et Sport que j'anime personnellement, dans lequel nous échangeons en permanence autour de cas cliniques, de problématiques de cabinet, de réflexions plus philosophiques parfois. Bref, en rentrant dans cette équipe, vous ne vous sentirez plus jamais seul et resterez ainsi stimulé continuellement. Pour recevoir le programme de la formation, c'est très simple, faites-le-moi savoir en m'envoyant un email à etienne.bulidon@gmail.com. En attendant, on se retrouve tout de suite avec l'invité du jour, Monsieur Eric Solium. Bonjour Eric.
Bonjour Étienne.
Merci de me recevoir et de m'avoir reçu toute la journée en salle d'opération. On va parler aujourd'hui d'apnée du sommeil, mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es et ce que tu fais de tes semaines, on va dire.
Étienne, déjà, merci de t'intéresser au sujet de l'apnée obstructive du sommeil, qui est un sujet passionnant et malheureusement pas toujours bien compris d'une façon générale, avec des prises en charge qui sont un petit peu, je pense, pas toujours parfaitement adaptées à chaque patient. Et je suis donc chirurgien maxillofacial spécialisé en chirurgie orthognatique. Alors la chirurgie orthognatique, pour bien expliquer, c'est la chirurgie sur les bases osseuses au niveau du visage. Ça peut être la mandibule, le menton, le maxillaire, et je me suis surspécialisé en chirurgie de l'apnée du sommeil par l'intermédiaire justement de la chirurgie orthognatique. Et donc mes semaines, c'est que je travaille une semaine sur deux à Toulouse, et où je consulte deux journées et où je suis au bloc opératoire deux journées pleines, et une autre semaine où je suis à Paris, où je consulte de la même façon deux journées, où j'opère deux journées pleines, avec une activité très orientée sur l'apnée obstructive du sommeil pour proposer aux patients des guérisons. Voilà, pour résumer, si on peut résumer de cette façon, mon activité professionnelle.
De toute façon, on va creuser un petit peu, évidemment. Alors, ouais, tu me disais aujourd'hui que 80% de tes motifs de consultation étaient en lien avec des syndromes d'apnée du sommeil.
Oui, d'accord. C'est J'ai commencé à prendre en charge des patients pour une apnée obstructive du sommeil il y a plus de 25 ans. Hein. Oui, j'ai parce que
j'ai jeune, mais t'es pas si jeune en fait.
Je suis pas si jeune. Hein. Je sais même pas exactement. J'ai 57 ans, quoi. Donc c'est pas évident. Enfin, si, c'est évident, mais c'est pas. J'ai la chance d'avoir une bonne expérience. Et au fur et à mesure, les patients de bouche à oreille sont venus en plus grand nombre pour envisager des guérisons de l'apnée obstructive du sommeil. Et là, depuis quelques années, j'ai l'impression qu'il y a une augmentation vraiment considérable de patients qui ne tolèrent pas bien les traitements qu'ils ont et qui cherchent une alternative et qui souhaitent tout simplement guérir.
Bon, parfait. Est-ce que tu peux quand même nous définir un petit peu, en tout cas nous parler de la physiopathologie et du rétrécissement de la lumière du pharynx, etc., de ce qui se passe chez les patients qui souffrent d'apnée du sommeil?
Oui, c'est important et je te remercie Étienne de me faire rebondir sur cette question. Alors, bon, simplement, la définition de l'apnée, déjà. Parce qu'il faut voir que dans les troubles ventilatoires, c'est-à-dire troubles de la respiration avec des réveils nocturnes, il faudra distinguer d'une part l'apnée obstructive du sommeil, l'apnée centrale du sommeil et le syndrome d'hyper-résistance des voies aériennes supérieures. Ce sont trois pathologies distinctes, mais on va le faire très simplement, ça se comprend très bien. L'apnée du sommeil, c'est on a une apnée du sommeil lorsque l'on arrête de respirer la nuit. Et d'un point de vue de la définition, c'est comme ça, c'est un critère que les médecins ont établi. Si on s'arrête de respirer pendant plus de 10 secondes, on fait une apnée. Et si on le fait plus de 5, c'est-à-dire si cette absence de respiration se reproduit au moins 5 fois par heure. Là, je dis bien en France, dans ces conditions et dans un certain nombre de pays, hein, mais ce n'est pas forcément un consensus international, on va parler d'apnée obstructive du sommeil. Lorsque le nombre d'apnées est inférieur à 5, on dit qu'il n'y a pas d'apnée. Entre 5 et 15, on va dire qu'il y a une apnée qui est légère. Entre 15 et 30, on dit que l'apnée est modérée. Et au-delà de 30, on dit qu'il y a une apnée sévère. Certains patients pouvaient avoir ce qu'on appelle un index d'apnée-hypopnée, c'est-à-dire le nombre d'apnée et d'hypopnée par heure qui est supérieur à 50, 60. J'ai pris en charge des patients qui étaient à 70, par exemple, en termes d'index. Là, on a vu l'apnée. L'hypopnée, c'est un petit peu plus difficile à définir. C'est quand on estime qu'il y a une baisse du débit du flux aérien supérieur à 50%, là aussi, pendant une période qui est à peu près équivalente à celle de l'apnée. Donc l'hypopnée, c'est par exemple un patient qui va ronfler, eh bien il va, c'est lié à une hypopnée, c'est-à-dire que le flux aérien diminue, il devient turbulent. On parle bien de débit hein, quand on parle de flux aérien. Quand je dis le flux aérien, c'est le débit du flux aérien devient et diminué, ce qui ne veut pas dire que l'air qui passe passe plus lentement, il peut passer plus rapidement, ce qui peut provoquer des turbulences et qui font vibrer la muqueuse du pharynx. Alors, quand on parle d'apnée et d'hypopnée, c'est bien sûr au niveau d'un organe. C'est un organe ça se passe au niveau du pharynx. Alors, le pharynx, c'est un organe qui est, pour le faire très très simplement, entre le nez et la bouche d'un côté et puis le larynx de l'autre qui va ensuite se prolonger vers les voies pulmonaires hein, en passant par la trachée, les bronches, bronchioles. Mais le pharynx est en quelque sorte, c'est un organe anatomique qui est mou, qui est sur lequel il y a des muscles et une muqueuse. Alors, pourquoi ce qui est intéressant pour bien comprendre l'apnée obstructive du sommeil, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. On a vu la définition, mais la définition n'explique en rien la physiopathologie de la pathologie. Si on en reste à la définition, on ne va pas très loin. Pour comprendre en quoi consiste l'apnée, il faut comprendre comment on respire et s'étonner du fait qu'on ne fasse pas d'apnée. C'est-à-dire, quand on respire et qu'on est sain, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pathologie, on va dilater les poumons. C'est-à-dire que le volume pulmonaire va augmenter. C'est logique, hein ? par exemple avec la cage thoracique ou en l'augmentant ou alors au repos en abaissant le diaphragme. Le volume augmente. Quand le volume augmente, qu'est-ce qui se passe ? La pression à l'intérieur des poumons, ce qu'on appelle la pression intra-alvéolaire, va diminuer. Parce qu'il y a une constante physique hein, dans la loi dans la dynamique des fluides qui veut que la pression multipliée par le volume soit une constante. Donc si le volume augmente, bah, la pression elle va obligatoirement diminuer. La pression diminuant, eh bien, l'air qui est de l'extérieur va être attiré pour équilibrer les pressions. Et donc, c'est de cette façon que l'air va passer de l'extérieur par le nez, la bouche, et passer par le pharynx. Mais comme la pression est négative au niveau du pharynx et qu'elle est positive à l'extérieur, bah, logiquement, eh bien, il devrait y avoir un resserrement des parois du pharynx. La paroi du pharynx devrait, ce que l'on appelle dans le jargon médical, se collaber. C'est normal, puisque la pression à l'extérieur est positive et qu'à l'intérieur, elle est négative. Et pourtant, quelqu'un qui n'a pas d'apnée, ça ne se passe pas. Eh bien, pourquoi ? Parce que chez un patient qui est sain, il y a, lorsque l'on respire, lors de la phase d'inspiration, une tension au niveau des muscles qui vont rigidifier le pharynx pour l'empêcher de se collaber, pour l'empêcher de se refermer sur lui-même. Chez le patient qui présente une apnée obstructive du sommeil, on peut supposer qu'il n'y a pas ce feedback musculaire. Ça, c'est la première cause. Mais après, il y a une autre cause. C'est que, à partir du moment où on n'a pas ce feedback, bon, ok, ça a une tendance à se rétrécir quand on respire et qu'on est en pression négative. Mais si vous imaginez que le pharynx a un diamètre relativement large, bon, ça va se refermer un petit peu, mais il ne va pas y avoir d'apnée. Mais si maintenant vous imaginez que le pharynx est étroit, alors, dans ces conditions, la probabilité que les parois s'accolent l'une à l'autre est beaucoup plus importante. Donc, globalement, là, on a compris que dans l'apnée obstructive du sommeil, le patient va inspirer, il inspire, les parois se collabent. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, il est en apnée, donc il étouffe. Et on ne peut pas supporter cela très longtemps, le cerveau ne peut pas supporter très longtemps. Donc après quelques secondes, alors ça dépend, hein, pour des patients ça peut être après une minute, pour d'autres ça peut être après 10 secondes, 15 secondes, et il va y avoir une réaction de stress intense qui va déclencher le système adrénergique avec un largage d'hormones, en particulier du cortisol, de l'adrénaline, qui vont provoquer un réveil, mais un réveil, c'est un réveil très anxiogène. En panique, en état de panique, on est en train d'étouffer, on se réveille en sueur, en transpiration, avec une tachycardie à cause de l'adrénaline. Mais le patient, il est en sommeil profond, parce que ça survient là où il y a un relâchement musculaire, donc pendant le sommeil profond. Et donc le patient, bah, il se rendort juste après. Mais le cercle recommence. Donc ce sont des endormissements, des réveils, des endormissements, des réveils liés à des apnées. Alors, c'est une pathologie qui est, d'un point de vue physiopathologique, qui fonctionne de cette façon et qui est bien évidemment très, très angoissante, non seulement pour le patient lui-même, mais pour l'ensemble des organes. Alors là, j'ai parlé de l'apnée obstructive. Juste deux mots pour bien comprendre la physiopathologie des différents troubles ventilatoires qui sont relativement qui sont connus pour l'apnée obstructive et l'apnée centrale, mais moins connus pour l'hyperrésistance. L'apnée centrale, c'est quand le cerveau, il n'y a pas d'obstruction, les voies aériennes sont bien, le cerveau, il dit, bon, bah, écoute, moi, je n'ai pas envie de respirer. Il y a des raisons à cela. Mais il dit, moi, je ne veux pas. Donc, ça peut être lié à des médicaments, ça peut être lié à une prise d'alcool, ça peut être aussi lié à une apnée obstructive, parce qu'à force de faire des efforts pour respirer et ne réussissant pas à respirer, bah, le cerveau il se dit « Ok, bon, bah, écoute, j'arrête. » Et c'est pour ça qu'on a des apnées mixtes dans les apnées obstructives. Enfin, elles sont obstructives et centrales, mais c'est l'obstruction qui est responsable de l'apnée centrale. Et enfin, un petit aparté, c'est plus technique, mais sur l'hyperventilation des voies aériennes, Dans l'hyperventilation, ce sont des voies aériennes sur lesquelles il y a des goulets d'étranglement, comme on le retrouve d'ailleurs pour l'apnée, au niveau du pharynx. Le flux d'air qui passe devient turbulent. Alors quand c'est turbulent, ça ne se collapse pas, il n'y a pas de fermeture des voies aériennes. Mais simplement, la turbulence, ça implique des mouvements circulaires, alors que normalement le régime de flux aérien, il est laminaire, il doit être parallèle aux parois du pharynx ou des bronches, et il est un peu plus rapide au milieu que sur les côtés. Mais là, quand le régime devient turbulent, eh bien, l'air tourne sur lui-même, et donc ça provoque, pour que l'air puisse être amené, acheminé jusqu'au poumon, eh bien, on est obligé de faire des efforts ventilatoires. Et ces efforts, ils réveillent le patient. Ça déstructure complètement le cerveau. Et donc, on se réveille de la même façon que pour les apnées obstructives du sommeil, mais simplement, on ne désature pas et on n'a pas d'apnée. Donc, voilà un petit peu les trois grands troubles ventilatoires du sommeil que l'on peut répertorier.
Ouais, les bases sont claires. Merci, Eric. On imagine bien ce pharynx qui se rétrécit, mais qui ne se collabe pas et qui crée un espèce de phénomène instrument de musique avec vibration de pharynx qui crée le ronflement.
Ça, c'est l'hypopnée et le syndrome d'hyperrésistance des voies aériennes supérieures qui est un problème de santé publique également majeur.
Yes. Et tu nous parlais de cette paroi musculaire du pharynx, mais je précise qu'on a affaire ici à des muscles lisses, c'est-à-dire qui ne se rééduquent pas.
Oui, exactement. Le pharynx, on ne peut pas le rééduquer. On ne peut pas dire, ah bah tiens, on va le travailler par des petits exercices pour le faire. Non. Et on ne sait pas, on ne connaît pas très bien le mécanisme physiopathologique qui fait que les muscles ne sont pas sollicités la nuit pour maintenir une certaine rigidité.
Parfait. Donc là, on va essayer d'amener un peu de concret dans notre discussion. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on comprenne ce qui amène les patients chez toi. Décris-les, parce qu'il y a aussi tout un tas d'effets secondaires. Tu nous parles du stress que provoque cette apnée obstructive du sommeil. Je pense que là, tu vas nous parler de tous les effets secondaires, notamment cardiaques. Et décris-nous peut-être pour ça le patient typique qui vient de voir en consultation.
On va le voir très simplement. Alors déjà, je peux peut-être continuer un tout petit peu sur la physiopathologie, après décrire le patient, comme tu veux, Étienne.
Tu veux.
C'est bien, on est libre. Merci, Étienne. On a vu qu'on va le voir très simplement. On a vu qu'on se réveillait. Alors, on va le faire. C'est à peu près la même chose. Je vais me concentrer sur l'hyperrésistance des voies aériennes supérieures et l'apnée obstructive du sommeil. C'est à peu près le même mécanisme. Donc, on se réveille. On se réveille plein de fois avec une tachycardie. Le cœur, il n'aime pas comme ça être réveillé parce que le cœur, il doit se reposer la nuit. Et d'autre part, l'adrénaline va provoquer une hypertension artérielle. Premier point. Deuxième point, comme ces réveils, ces endormissements, ces phases de réveil, l'adrénaline, c'est un facteur de risque également d'insuffisance cardiaque sur le long terme. C'est un deuxième effet possible, mais malheureusement on s'en rend compte que plus tardivement. D'autre part, l'adrénaline, elle va provoquer une tachycardie qui fatigue le cœur. Donc d'un point de vue cardiovasculaire, on a vu qu'il y avait la tachycardie, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque. Et il va y avoir d'autres paramètres qui vont survenir. Mais je continue déjà sur les choses qui arrivent brutalement, comme ça. Là, on est la nuit. La nuit, on se réveille plein de fois. Donc le cerveau, il va se... le cerveau ne va pas être en repos parce que le sommeil va être déstructuré. Donc, à force de se réveiller et de se rendormir, il suffit de faire une petite expérience qui est très simple, que j'ai faite, hein, pour bien comprendre ce que ressentaient les patients. Et je l'ai faite, bien sûr, quand j'étais en vacances, hein, que je n'opérais pas. Je me suis amusé à mettre mon réveil toutes les à peu près 5 minutes et à devoir me réveiller, l'éteindre et le rebrancher pour les 5 minutes suivantes. Ce qui faisait à peu près les 10 secondes du patient apnéique. Et le lendemain, on est vraiment... Et je prenais mes constantes. C'est-à-dire, je me pesais, je regardais un petit peu mon alimentation, je regardais un petit peu comment était ma tension artérielle, etc. etc. Alors, je n'ai pas fait l'expérience des mois et des mois, parce que sinon, je ne serais pas là pour en parler. Mais je serais vraiment totalement...
Pas dans cet état, en tout cas.
Pas dans cet état. Mais très rapidement, le lendemain, on se réveille, on est épuisé, dès la première nuit. Mais on peut tenir la première nuit. La deuxième, ça commence à être difficile. La troisième, vraiment, on n'en peut plus. j'ai pas prolongé après 4-5 nuits. J'ai fait 5 nuits exactement. Après, j'ai arrêté parce que c'était insupportable. Et j'étais obligé de faire des siestes de la journée. J'étais vraiment fatigué. Mais pendant mes siestes, je faisais la même chose. C'est-à-dire avec le réveil toutes les 5 minutes. Donc, c'était l'enfer. J'avais envie de manger tout de suite. Donc, je me précipitais. Donc, en 5 jours, j'ai eu une prise de poids et une hypertension artérielle qui s'est révélée. Je n'ai pas regardé les autres constantes. Puisque bon, pour cela, il aurait fallu que je prolonge un petit peu mon expérience sur le long terme. Donc, on a vu que la nuit, on se réveillait, donc ça déstructurait le cerveau. Donc, il faut savoir aussi que le cerveau, il a un rôle de nettoyage. C'est-à-dire que quand on dort, le sommeil a pour but de nettoyer le cerveau. Et ça peut être un facteur de risque, donc, puisqu'il y a un certain nombre de toxines qui vont rester en activité, qui vont s'accumuler au niveau du cerveau si on est apnée obstructive du sommeil. Et donc, ça peut être un facteur de risque de démence sur le long terme. Donc, ça, c'est lié au défaut de sommeil. Ensuite, on se réveille la nuit plusieurs fois. Et donc, avec cette sollicitation adrénergique, ça donne envie d'aller uriner. C'est ce qu'on appelle la nycturie. Donc, les patients, ils vont aller uriner 3, 4, 5 fois dans la nuit. Ensuite, si on se réveille, on peut se réveiller donc avec des crises d'angoisse, c'est logique, hein, parce qu'il y a certains patients qui ont même, j'ai certains de mes patients qui sont venus me voir, qui ont appelé le SAMU la nuit parce qu'ils pensaient qu'ils étaient en train de mourir. Et c'est un petit peu le cas, puisque l'apnée, elle peut durer pour certains patients une minute et demie. Ensuite, au réveil, bah, on est épuisé. Hein. Quand on ne dort pas, on est fatigué. Donc ça, et puis il y a tous les signes qui peuvent être associés, c'est-à-dire qu'on peut avoir des céphalées, des maux de tête, enfin, ou des maux de tête qui ne sont pas en rapport véritablement avec des migraines, mais ce qu'on appelle les céphalées ou des tensions. Les patients ont l'impression d'être dans le brouillard le matin. Et après, alors là, je parle vraiment de ce qui est typique, hein, de ce que me décrivent les patients quand ils viennent me voir. Eh bien, avant de pouvoir retrouver un tout petit peu leurs esprits, il va y avoir un temps de latence. Certains vont rester un quart d'heure assis sur une chaise. D'autres, ça va durer une demi-heure, trois quarts d'heure. Ils vont prendre un café, une cigarette, reprendre un café. Ils vont manger du chocolat le matin, des choses un petit peu énergétiques. Puis après une heure, deux heures, ah, ça va beaucoup mieux. Mais ça ne dure pas. Donc dans la journée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les patients vont avoir besoin de faire des siestes. J'ai vu un patient en consultation, par exemple, hier. Il me disait qu'il avait dans un lit de camp qu'il emmenait au travail. Et par exemple, à l'heure du déjeuner, il va déjeuner, il a 45 minutes de pause, il va déjeuner en 5 minutes et il va dormir les 40 minutes qui lui restent sur son lit de camp. En voiture, c'est dangereux, c'est un facteur de risque d'accident de la voie publique. Donc la journée est vraiment, elle est difficile. Les patients rentrent chez eux, en général, et puis ils sont fatigués, donc qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font la sieste avant de pouvoir dîner. Ils dînent et ils se couchent. Ça, ce sont les effets dont les patients... C'est la doléance principale des patients. Après, il y a tous les facteurs de risque médicaux qui sont complexes, qui sont très longs. On en reparlera peut-être tout à l'heure, qui sont la liste est énorme. Et d'un point de vue endocrinologique, gastro-entérologique, si tu veux, on en parle tout à l'heure.
Ouais. Alors l'idée, c'est quand même d'être focus sur la chirurgie et ce que tu fais.
Ce que je fais.
Ouais. Mais je pense que là, la personne qui écoute imagine bien tous les effets secondaires. Comme tu dis, tu as fait le test pendant 3 jours, tu n'en pouvais plus. Il y a des gens qui viennent te voir, ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont comme ça.
Ils sont comme ça.
Il n'y a pas de mal à imaginer le servicieux.
Pour le résumer très rapidement, sans vouloir prendre du temps sur la chirurgie et puis pourquoi la chirurgie par rapport aux autres solutions thérapeutiques, bien, ça provoque des troubles endocriniens avec une hypercholestérolémie, avec du diabète, non-insulinodépendant, ça provoque des syndromes dépressifs, l'apnée en elle-même peut provoquer un facteur de risque de cancer, ça peut être un facteur de risque de glaucome, d'hypertonie oculaire. Enfin, les organes ne se reposent pas. D'autre part, il y a un syndrome oxydatif qui survient. Et donc, tout cela abîme toutes les structures. Ça provoque un vieillissement prématuré de tous les organes, pour faire simple et pour résumer de façon rapide. Et en général, mes patients viennent me consulter avant tout parce qu'ils sont épuisés, qu'ils n'en peuvent plus et que les autres moyens thérapeutiques qui leur ont été proposés ne leur convenaient pas.
Ouais. Sachant qu'ils ont de la chance, ces patients, parce qu'ils ont entendu parler de toi. Je pense qu'il y a beaucoup, tu me diras ce que tu en penses, mais il y a beaucoup de patients qui font de l'apnée du sommeil et qui n'ont jamais entendu parler de cette solution. Et c'est aussi pour ça que je suis là, parce que qu'est-ce qui se passe en général? Ils voient leur généraliste, j'imagine, qui leur dit bah, « il faut maigrir, etc. » Tu vas peut-être nous dire aussi pourquoi il est très difficile de maigrir quand on est dans ce cas-là. Et puis après, bon, ça ne marche pas trop, donc ils passent à la machine à pression positive, là, et puis à l'orthèse d'avancée mandibulaire, et puis ils vivent comme ça, sans avoir conscience qu'il y a des gens comme toi qui peuvent les guérir. Alors,
oui, alors, je suis pas le seul, hein, bien sûr. Au niveau international, on est relativement nombreux.
Enfin, en France, vous êtes combien à faire ça?
Alors, c'est difficile à dire. C'est un petit peu, compliqué parce que sur les techniques, moi, j'utilise une technique un tout petit peu particulière que je dénomme LARA, l'avancée rotation antihoraire, qui me permet d'opérer quasiment tous les patients qui présentent une apnée obstructive du sommeil, quelle que soit leur morphologie faciale. Alors, je connais pas mes confrères, je sais pas quels sont ceux qui font les mêmes techniques. Ce sont des techniques qui ont été mises au point par le professeur Hermann Seiler en Suisse, que j'ai eu la chance de rencontrer, par le professeur Woolford aux États-Unis. Mais il y a de cela, ça date pas d'hier, hein, c'est dans les années 80.
Mais ça veut dire que, excuse-moi, je te coupe, mais ça veut dire que, admettons, moi je suis de Lyon, les chirurgiens, ils se connaissent entre eux, ils font des colloques sur la hanche, le genou, machin. Toi, tu ne traînes pas avec tes collègues chirurgiens maxillofaciales pour discuter de tout ça?
Alors, en général, si, puisque j'ai créé une association pluridisciplinaire sur l'apnée obstructive du sommeil, où j'ai réuni, c'était sur Facebook, où on est quand même nombreux, hein, 400, donc il y a des chirurgiens qui ont écouté un certain nombre de postes où j'invitais des médecins généralistes, des kinésithérapeutes, j'ai invité toutes les personnes qui travaillaient en relation avec des patients qui présentaient une apnée obstructive du sommeil. C'est excessivement important de faire connaître les possibilités. Mais au jour d'aujourd'hui, on est un petit peu, comment dire, dans une ornière. C'est-à-dire que dans la majorité des médecins pensent que l'apnée obstructive du sommeil, ça ne se guérit pas. Et ils pensent également que l'apnée obstructive du sommeil se guérit, entre guillemets, parce que ce n'est pas une guérison, avec la machine à ventilation positive.
Exact.
Et ça, on pourra en reparler parce que ça pose d'énormes problèmes, en fait.
On va en reparler, évidemment. Mais moi, je te repose ma question. À l'heure actuelle, est-ce que tu sais où sont tes confrères en France qui pratiquent les chirurgies que tu pratiques? Ou alors, peut-être avec des différences, mais où sont tes confrères qui opèrent les apnées du sommeil pour les guérir, en fait, tout simplement? Et combien êtes-vous en France? Parce qu'en fait, ma réflexion, c'est que les statistiques sont monstrueuses. Il y a, je crois, un patient sur cinq à partir d'un certain âge qui souffre d'apnée du sommeil. Donc, t'imagines la demande, c'est en dizaines de milliers de patients qui pourraient être guéri par de la chirurgie. Sauf que j'ai l'impression que vous êtes vraiment peu. Ma question, c'est combien êtes-vous et est-ce que tu connais tes confrères?
Pour être honnête, c'est difficile de répondre. Je ne les connais pas. Okay. Il y en a un certain nombre, forcément. Je ne suis pas... Moi, tu sais, pour être honnête avec toi, Étienne, je suis un peu... c'est pas que je travaille dans mon coin. J'étais voir à l'international. Hein, je collaborais avec des équipes au niveau international. Mais je travaille énormément. Je parle dans des congrès, hein, où des chirurgiens sont présents, mais je ne connais pas l'activité de tous mes confrères. C'est très difficile de répondre parce qu'il faut faire attention. Je ne veux pas qu'on puisse penser que je sois le seul à faire l'apnée obstructive du sommeil en France ou à l'étranger. Je connais bien, moi, mes confrères étrangers. Je connais bien Woolford, le professeur Woolford. Je connais le professeur Hermann Seiler. Il y a le professeur, le docteur Alfaro en Espagne. En Australie aussi, je suis en contact avec un chirurgien maxillofacial sur lequel on a les mêmes techniques. Alors, c'est toujours un petit peu la même chose. Hein. Moi, je me suis intéressé pour voir un petit peu ce qui se faisait à l'étranger pour pouvoir progresser, imprégner. Mais je pense qu'il y a probablement, et même certainement, je veux dire, la question ne se pose même pas, d'autres de mes confrères qui font la même chose en France. Mais je ne pense pas qu'on soit très nombreux parce que, pour diverses raisons, mais que je ne connais pas, enfin, que je ne maîtrise pas bien, Mais j'ai pas l'impression qu'on soit très nombreux parce que j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir directement et de bouche à oreille, tout simplement.
Ok, bon, c'est très clair. On va pas creuser ce sujet-là. On comprend que vous êtes très peu. C'est ok. Le patient qui vient de voir, déjà le diagnostic, il se fait par l'enregistrement, la polysomnographique, on est d'accord. Là, on va mesurer le nombre d'apnées, etc. Ouais. etc. Il vient de voir, enfin d'abord, il va voir son médecin traitant. Parle-nous rapidement des traitements qu'on a, qui ne sont pas vraiment des traitements au final, comme tu dis, que tout le monde connaît.
Je veux pas caricaturer. C'est important parce que déjà, qu'est-ce qui prend en charge un patient qui a une apnée obstructive du sommeil? Beaucoup de médecins. Ça peut être le médecin généraliste, c'est très positif quand c'est un médecin généraliste. Ça peut être un médecin spécialisé du sommeil. Ça peut être un médecin ORL. Enfin, je vais en oublier certainement. Ça peut être un médecin psychiatre, un neurologue, un cardiologue, un chirurgien maxillofacial. On est vraiment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui s'occupent de l'apnée obstructive du sommeil. Il y a des choses qui sont très positives. Hein, mais alors, voyons un petit peu ce qui se passe. La première chose, c'est qu'effectivement, on propose aux patients de maigrir. Parce que la prise de poids augmente la gravité de l'apnée obstructive du sommeil. Mais en même temps, l'apnée obstructive du sommeil en elle-même provoque une prise de poids. Très souvent, les patients qui viennent me voir culpabilisent parce qu'ils ne réussissent pas à maigrir. Et ils me disent, mais je maigris depuis que j'ai mon apnée obstructive du sommeil. Mais oui, c'est logique. Parce qu'il y a une... on le comprend très bien.
Je prends du poids. Ils te disent, je prends du poids depuis que j'ai mon apnée obstructive.
Voilà, c'est ça. Depuis que je sais que j'ai mon apnée obstructive du sommeil, j'ai commencé à prendre du poids.
C'est une fois que tu les opères qu'ils maigrissent derrière.
Et c'est après, une fois qu'ils sont opérés, qu'ils peuvent maigrir une fois qu'ils sont guéris de l'apnée obstructive du sommeil. C'est très difficile de maigrir quand on n'est pas guéri. Alors pourquoi? Parce que c'est toujours intéressant de bien comprendre. Bah déjà, quand tu dors pas bien et que tu es fatigué, épuisé, bah, tu vas te ruer vers le frigo pour manger. D'autre part, tu as une modification de balance avec différentes hormones qui font que ton sentiment de satiété va diminuer, voire disparaître. Les patients me disent « je mange, mais j'ai toujours faim ». Et donc, il y a un plus grand appétit, moins de satiété et donc une prise de poids qui est logique parce qu'il y a moins d'exercice, parce que l'apnée obstructive du sommeil, ce n'est pas qu'une pathologie de nuit, c'est aussi une pathologie de jour. Les patients me disent « mais écoutez, moi, quand je fais du sport, j'étouffe. » J'ai même des patients qui me disent « mais si je fais l'amour à ma femme, j'ai l'impression d'être en je suffoque. C'est un handicap vraiment, vraiment, vraiment lourd. Chaque patient, bien sûr, est unique. Mais globalement, c'est quand même des pathologies avec un faisceau de symptômes. Tous les patients n'ont pas tous les symptômes que je viens de décrire, mais lorsqu'ils ont un certain nombre d'entre eux, ça devient excessivement complexe. Donc, on leur dit maigrissez. Bon, pas évident de maigrir. Bon. Après, on leur dit, bon, écoutez, vous avez une apnée qui est sévère, s'ils ont une apnée sévère ou modérée, ou s'ils ont des facteurs de risque cardiovasculaires, on va donc, logiquement, vous proposer, c'est un petit peu ce qu'on appelle le golden standard, la machine à ventilation positive. Alors ça, je ne sais pas si on a le temps d'en parler un petit peu, mais c'est quand même un sujet excessivement intéressant parce qu'il y a des points très positifs à la machine à ventilation positive et des points que j'estime, moi, être relativement négatifs. Qu'est-ce qui est positif? Quand un patient qui est fatigué, si on lui met une machine à ventilation positive, la probabilité qu'il ait une apnée obstructive du sommeil devient faible parce que le but, c'est de mettre de l'air en pression positive. Ce n'est pas du tout physiologique, hein, on ne respire pas comme ça, on respire en pression négative, mais là, ça met l'air qui est à l'intérieur du pharynx, des bronches, en pression positive, et donc le patient ne va plus faire d'apnée. Ça ne veut pas du tout dire qu'il va régler ses problèmes. Mais au moins, d'un point de vue symptomatique, il y a une probabilité qu'il ne soit plus fatigué le matin au réveil s'il supporte bien la machine à ventilation positive. Donc ça, c'est un point positif. Mais il y a beaucoup de points négatifs. Je ne sais pas si je vais tous les évoquer ici, mais pour faire très court, c'est un traitement palliatif. Ça ne permet pas d'améliorer les facteurs de risque cardiovasculaire sur le moyen ou long terme. Alors ça dépend. Certains articles montrent qu'en prévention secondaire, c'est-à-dire après un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, ça peut être intéressant, mais d'autres disent que non. Et en prévention primaire, beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes sur l'intérêt de la machine à ventilation positive. L'intérêt, c'est quand même de les aider, les patients, à, c'est ce que je pense, hein, c'est ce que j'ai écrit dans mon ouvrage, c'est que ça les aide à ne plus être fatigués et à réfléchir à la possibilité d'une thérapie annexe, c'est-à-dire chirurgicale de guérison, si on peut retrouver une étiologie à leur apnée obstructive du sommeil. Voilà.
Ok. Donc ça, on est d'accord. Et les patients nous le disent, hein, que ça leur change la vie, qu'ils mettent l'appareil, qu'ils sont plus fatigués, etc.
La majorité des patients, alors ce que je vois, ce n'est pas ceux-là en général, mais on va dire qu'un grand nombre de patients, s'ils supportent la machine, vont ne plus être fatigués. Par contre, ils ne se posent pas trop de la question des facteurs de risque sur le long terme liés à leur apnée obstructive du sommeil qui ne sera pas corrigée par la machine, mais au moins ils sont moins fatigués. Mais pas tous, parce que, et d'ailleurs pas tant que ça, puisqu'on s'étonne, mais c'est quand même une statistique intéressante. On a jusqu'à plus de 60% selon les études, entre 40 et 80% de patients qui ne sont pas observants dans la mise en application de leur machine. Ça veut bien dire qu'il y a un problème. Et le problème, quel est-il ? C'est que vivre avec une machine ou supporter une machine, il faut l'avoir, la machine, ben, c'est pas du tout facile. Et donc, les patients, ouais, ok, ils ont la machine, ça leur rend service, mais ils la portent quoi ? Une heure, deux heures, et après, ils l'enlèvent, ce qui pose un double problème. D'une part, c'est que pour que ça soit véritablement intéressant pour bien se reposer et préventif sur les maladies cardiovasculaires, il faudrait qu'on ait la machine au moins 4 heures, mais surtout en deuxième partie de nuit, ce qui n'arrive quasiment jamais. Et les effets secondaires de la machine à ventilation positive sont très très nombreux. On en parle peu, mais les effets secondaires, ça peut être des atteintes cutanées au niveau de l'interface avec le masque, ça peut être ne serait-ce que le bruit quand il y a des fuites. Ça peut être, on a décrit des apparitions d'hypertonie oculaire avec des glaucomes avec la machine à ventilation positive. Il y a beaucoup ouais, d'effets secondaires.
En termes psychologiques, tu dors avec un masque, dès que tu te déplaces, t'as plus de machine,
une rupture de la vie intime. On peut pas, si on doit voyager, on doit voyager avec sa machine. Si y a une coupure de courant, c'est excessivement compliqué. Moi, j'ai opéré des patients qui venaient d'Afrique, ils disaient, mais il y a tellement de coupures de courant que ça devient compliqué.
Ça, on le comprend très bien. Et donc ensuite, le dernier traitement connu, donc c'est la fameuse orthèse qui avance la mandibule et là qui rejoint un petit peu ce que tu fais. Mais
oui, alors l'orthèse avancée mandibulaire, c'est intéressant. C'est plutôt dédié aux apnées qui sont légères, éventuellement modérées, ou lorsque le patient ne supporte pas la machine à ventilation positive. L'idée, c'est d'avancer la mandibule. Alors, en quoi c'est intéressant d'avancer la mandibule ? Parce qu'il y a un muscle, on appelle le muscle génioglosse, qui va de l'apophyse génie, qui est au niveau du menton, juste en arrière du menton, et qui permet, donc génio de l'apophyse génie, glosse hein, de la langue, et qui va tracter la base de la langue vers l'avant. Or, très souvent, l'apnée obstructive du sommeil est liée à un refoulement de la langue la nuit dans le pharynx, dans la lumière du pharynx, qui fait qu'il y a une obstruction. Et donc, en avançant artificiellement la mandibule avec un appareil, alors cet appareil, il n'est pas très simple, hein, c'est un appareil qui relie les dents du haut avec les dents du bas. Les dents du bas vont être propulsées vers l'avant par un petit vérin et d'une quantification qui ne dépasse pas les 7 mm en moyenne. Mais c'est déjà pas mal, 7 mm, c'est moins bien qu'en chirurgie, mais ça permet de soulager les patients. Par contre, là aussi, on n'a pas prouvé que ça améliorait les facteurs de risque cardiovasculaire sur le moyen et long terme. Et d'autre part, les effets secondaires sont loin d'être négligeables parce que ça équivaut, et toi, tu dois bien connaître ça en tant qu'ostéo, hein, ça équivaut en une force extra-orale qui va provoquer une mobilisation des structures dento-alvéolaires. Donc avec le temps, on a les dents du bas qui vont vers l'avant, les dents du haut qui vont vers l'arrière. Donc, le décalage va au sens inverse de ce qu'il devrait être, ce qui fait qu'après 10 ans, on a plus de 80 à 90% des orthèses d'avancée mandibulaire qui deviennent inefficaces. Les patients disent « Ouais, ça m'a rendu service pendant 2 ans, 1 an, et maintenant, ça ne me rend plus du tout service. » Alors, ça dépend. Ça peut être 1 an, ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans. Mais après 10 ans, on sait qu'en général, ça ne marche plus. 10, 15 ans, ça ne marche plus. Et il y a d'autres effets secondaires, des douleurs au niveau de l'articulation temporomandibulaire, etc. Enfin, et ce n'est pas une guérison. On vit avec une machine quand même. Mais c'est mieux toléré que la machine à ventilation positive, dans l'immense majorité des cas, s'il n'y a pas de douleur.
Parfait. Donc là, on a passé en revue, on va dire, les traitements classiques que tout le monde connaît.
Et c'est ça.
On va aborder le sujet du jour, enfin. Donc, on retient bien, j'imagine que ceux qui écoutent imaginent bien la mandibule qui est un peu propulsée vers l'avant par la...
Par l'orthèse.
Par l'orthèse. On imagine que ça tire le pharynx par l'intermédiaire des muscles glosso-pharyngiens.
Ça permet de ça tirer ouvre. La langue un petit peu vers l'avant et donc de libérer un petit peu la lumière du pharynx. Mais sachant que ça ne règle que le problème en rapport avec la langue et qu'on ne règle pas avec l'orthèse le problème qui est en rapport avec le voile. Parce que c'est un deuxième
Exactement.
Zone de compression.
Il y a deux niveaux. Donc la lumière, pour ceux qui écoutent, c'est tout simplement le diamètre en fait. Donc en avançant le massif facial, ce qui est le principe de la chirurgie dont on va parler, on va augmenter le diamètre, la lumière de ce pharynx, et du coup l'air va passer et le patient va respirer, et ce sans machine. Donc explique-nous un peu ta chirurgie, le contenu, de contenant, etc.
Alors,
maxillaire, etc.
Pour bien comprendre l'intérêt de la chirurgie, que j'appellerais d'avancée rotation antihoraire. Un petit aparté, quand on a un tuyau et que l'air passe dans le tuyau, si jamais on rétrécit le rayon du tuyau de 2, la résistance à l'écoulement de l'air ou du fluide va être multipliée par 16. Inversement, si jamais on agrandit le tuyau par lequel passe le fluide d'un facteur 2, c'est-à-dire qu'on va augmenter le diamètre de 2, la résistance est 16 fois plus faible. Tu imagines un petit peu la différence, c'est-à-dire qu'en augmentant un tout petit peu le diamètre, la section du tuyau où tu respires, c'est-à-dire le pharynx, tu vas faciliter la respiration d'un facteur 16. C'est absolument incroyable. Donc l'idée, c'est d'augmenter le pharynx dans sa section transversale. Mais sans travailler sur le pharynx lui-même, parce que le pharynx sont des muscles et des muqueuses, on ne va pas aller s'amuser à aller gratter des muscles pour provoquer des problèmes dramatiques. On va imaginer, si on comprend que le pharynx il est sous-tendu, on va dire, par des câbles qui sont reliés à la mandibule et au maxillaire, on comprend bien que si on avance ou si on élargit le maxillaire et la mandibule, eh bien, on va envisager une guérison, puisqu'on va augmenter le diamètre du pharynx. C'est excessivement simple en définitive. Très, très simple.
Ouais, moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment compris l'essentiel là, en étant venu te voir aujourd'hui, en ayant lu ton livre. Et pour ton histoire de pression, ça me fait penser, tu sais, quand t'es gamin, que tu joues avec les tuyaux d'arrosage, tu
oui,
le bouges un petit peu et tu sens vraiment la pression qu'augmente,
ah bah
sauf
exactement.
Que c'est avec de l'eau, mais là, c'est de l'air.
C'est exactement la même chose, c'est de l'air. C'est, et c'est le même principe. C'est comme, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est que, imagine que tu veuilles... aspirer de l'eau avec une paille qui est très fine et puis après tu prends une paille qui est ne serait-ce que 3-4 fois plus large, bah tu vas aspirer ton verre d'eau ou ton soda très rapidement, ça va être bien.
Ouais, carrément. Et donc est-ce que tu peux nous parler de manière simple de cette chirurgie que tu pratiques, rotation antihoraire, avancée mandibulaire, etc.
Alors je vais la décrire en donnant un petit historique, parce que je veux pas qu'on, voilà, pour bien rebondir sur la question que tu m'avais posée, et puis aussi pour montrer que, bien évidemment, on est nombreux à réaliser une des techniques et moins nombreux à réaliser l'autre technique. Il y a deux techniques. C'est l'école de Stanford, aux États-Unis, qui, dans les années 80, a montré que pour les patients qui avaient des disharmonies, c'est-à-dire des décalages entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas, et en particulier ceux qui avaient une mâchoire du bas qui était un petit peu rétrusive, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle les patients qui ont une classe 2 squelettique, c'est-à-dire que la mandibule est un petit peu en arrière. En général, c'est 90% des patients de nos jours, ils sont plutôt une mandibule qui n'est pas bien développée. C'est parce qu'on a un cerveau qui se développe plutôt de façon importante et la face qui est un petit peu rétrusive. C'est presque... une considération, je dirais, de l'évolution de l'espèce humaine par rapport à nos cousins, les primates. Et donc, ils ont remarqué que les patients qui étaient opérés, pas du tout pour une apnée obstructive du sommeil, hein, puisque à l'époque, on ne savait pas que ça marchait, mais pour ce décalage qu'il y avait entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas, eh bien après, s'ils avaient une apnée avant, ils n'en avaient plus après. Et ils ont fait des études et ils se sont rendus compte que ça permettait de guérir de l'apnée obstructive du sommeil. Donc la première technique, elle a été décrite, elle n'a pas été décrite pour cela, mais on s'est rendu compte que la technique de chirurgie orthognathique permettait, en avançant le maxillaire et la mandibule, de guérir les patients qui avaient une apnée obstructive du sommeil. Alors ça, c'est bien parce que quand tu as, et ça, c'est ce que la majorité des chirurgiens font, quand tu as un maxillaire qui est en arrière ou quand tu as une mandibule qui est en arrière, eh bien, tu vas avancer le maxillaire et la mandibule. C'est bien parce que tu rétablis une harmonie du visage qu'ils n'avaient pas auparavant et tu vas les guérir de leur apnée obstructive du sommeil. Mais il y a une deuxième technique qui est apparue avec les travaux du professeur Hermann Seyler, qui a fait un article quelques années plus tard, est très intéressant. Parce que imagine que tu as déjà ton visage qui est un petit peu vers l'avant et que tu veux quand même avancer la mandibule. Si tu veux avancer la mandibule selon la technique que je viens de décrire précédemment, tu vas être obligé d'avancer le maxillaire. Mais le maxillaire, c'est lui qui détermine l'esthétique du visage. Donc, si tu as un patient, tu imagines qu'il a des lèvres bien pulpeuses, qu'il a un nez qui est un petit peu court. Eh bien, si tu avances son maxillaire pour pouvoir avancer la mandibule et que tu veux avancer la mandibule de 15 mm, tu vas devoir avancer le maxillaire de 15 mm, bah, ça va pas du tout être joli. Et donc, tu vas pas le faire. Donc, le professeur Seyler, dans les années 80, il a dit, oh, mais si, on peut le faire. Mais on va faire une rotation anti-horaire quand on regarde la face droite du patient et qu'on le regarde comme ça. On va augmenter la dimension verticale postérieure et ainsi, en faisant cela, on va se retrouver avec une mandibule qui va s'ouvrir, c'est-à-dire qui va se reculer. Si tu prends deux planches de bois, tu les mets l'une parallèle à l'autre. Hein. Alors, on a la radio, je ne peux pas le montrer sur un dessin. Mais tu vas faire descendre la planche de bois qui est au-dessus. Tu la fais descendre,
par exemple. Partie arrière.
Ouais, voilà,
la partie arrière qui fait avancer.
Et ben, tu vois que la partie basse, quand tu vas fermer, parce que la mandibule, elle se ferme selon un axe de rotation en fonction des condyles, eh bien, elle ne va pas pouvoir se fermer. Donc, elle va rester ouverte. Et donc, si elle reste ouverte avec un angle très important, elle est en arrière, en arrière. Et donc, tu vas réaliser une ostéotomie de la mandibule pour pouvoir la remettre en bonne position. Et là, tu fais ton avancée sans avoir trop modifié ou presque pas modifié le visage.
Ouais, moi, j'ai l'image d'une, tu sais, des roues dentées.
Si tu, c'est exactement ça.
Si tu emmènes la roue en rotation, alors si on regarde le patient de face, ça serait en rotation.
Alors, tu peux, parce que de face, c'est plus compliqué parce que c'est vraiment de profil qu'il faut imaginer.
Ouais, de profil, donc on imagine la rotation. Oui, ouais. Bah, anti-horaire, du coup.
Et c'est anti-horaire parce que on l'appelle anti-horaire, c'est-à-dire que quand tu regardes le patient et que toi, tu es à droite du patient et que lui, il regarde, donc tu regardes son visage droit. Toi, tu
es à droite, tu regardes le visage droit,
il faut être à droite.
Okay.
Et donc, tu fais une rotation du maxillaire. Eh bien, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en supposant que c'est le cadran de l'horloge que tu vois en face de toi. Tu fais comme si le visage était une horloge. Donc, tu fais une rotation anti-horaire. Et donc, le gros avantage, c'est que tu fais des avancées mandibulaires excessivement importantes sans modifier le visage.
Mmh. Ouais, c'est ça qu'il faut retenir sans retenir trop la technique. C'est que grâce à cette chirurgie, tu fais des avancées mandibulaires qui ne changent pas la forme du visage des gens. Des fois, ça l'améliore un peu. On a vu quand même des patients qui étaient...
Oui, c'est-à-dire que ça fait comme un petit lifting, quoi. Ça rajeunit un petit peu les patients. Bon, il n'y a rien de grave à cela.
Oui, sachant qu'il ne faut pas faire ça pour ça.
Non,
mais,
bien sûr que non.
C'est en avançant ce massif facial que tu recrées l'espace, tout simplement au niveau du pharynx, et donc la place pour l'air de passer, et donc tu guéris les gens.
C'est ça, c'est-à-dire que le taux de guérison est vraiment important. Globalement, le professeur Hermann Seyler décrivait dans ses articles 100% de guérison. Alors, je pense qu'il voulait dire par là 100% de patients qui étaient sevrés de la machine et qui n'étaient plus fatigués.
Ouais, ce qui est dingue. Et juste quelque chose dans les traitements, j'ai pensé à mes collègues quand je lisais ton livre, tu mentionnes pas la kiné maxillofaciale, l'orthophonie, etc. C'est que c'est pas assez efficace sur les gens que tu vois.
Alors, je le mentionne pas parce que on peut pas en parler de guérison, mais je pense que j'ai été l'un des premiers en France à parler de la kinésithérapie oromaxillofaciale. Puisque je crois que la première communication que j'ai faite remonte à 24 ans, je crois, sur l'intérêt de la kinésie linguale et de l'orthophonie linguale en chirurgie orthognathique. Mais, et donc, elle est faite systématiquement pour les patients que je prends en charge. Mais ce n'est bien évidemment pas une rééducation linguale qui va permettre une guérison. Parce que la langue, c'est un muscle. Mais si la langue est dans une boîte à langue, c'est-à-dire dans la bouche qui est étroite, ce qui est dans l'immense majorité des cas, on a une langue de taille normale dans une bouche qui est toute petite, donc qui va refouler vers l'arrière. T'as beau la muscler comme tu veux, quand tu dors, tu dors. Et donc, quand tu dors, la langue, elle ne va pas se tonifier. Elle va être hypotonique, même si tu l'as tonifiée en amont. C'est important de la tonifier d'un point de vue kinésithérapeutique parce que ça va permettre à aider pour la déglutition, qu'elle soit physiologique, mais on ne peut pas uniquement par kinésithérapie linguale permettre d'obtenir une guérison de l'apnée obstructive du sommeil. C'est juste pas possible.
Ouais. Et je pense à un truc là, et j'y pensais tout à l'heure en te voyant opérer, je pensais aux anneaux gastriques qui ont pour but de rétrécir pour le coup l'estomac. Oui. Et je me disais, n'est-ce pas possible de mettre un anneau pharyngien mais qui augmente la lumière du pharynx? Tu vois ce que je veux dire?
Sans... Oui, on m'a déjà posé la question, faire comme des stents au niveau du pharynx.
Exactement.
Oui, un jour peut-être, pourquoi pas, mais à mon avis, ça sera moins intéressant que la technique de l'avancée rotation antihoraire, ce que j'appelle moi le LARA comme technique, pour la raison suivante, c'est qu'on ne va pas régler le problème de la boîte à langue. Or, la langue, elle va quand même rester coincée en avant. Et si la boîte à langue est étroite et qu'elle est empêchée de refouler à cause du stent pharyngé en arrière, eh bien, elle va provoquer une ouverture de bouche. D'accord ? L'ouverture de bouche va provoquer une diminution de la tension du muscle génioglosse. Et donc, ça va aggraver la possibilité d'une apnée obstructive du sommeil. Tu vas me dire, oui, mais il y a quand même le stent. Alors bon, pourquoi pas, je pense que ça marcherait quand même. Mais techniquement, placer un stent qui serait énorme hein, quand même au niveau du pharynx, sachant que c'est un organe qui est à la fois aérien, mais aussi où il y a les aliments qui passent. Donc, suppose que tu mettes un stent dans la paroi du pharynx, tu vas perdre le péristaltisme provoqué par les muscles. Ces muscles sont liés surtout pour permettre aux aliments de passer du haut vers le bas. Et donc, ça sera difficile, ça va même être... donc, ça devient, tu vois, excessivement complexe. Il faut que les muscles puissent fonctionner. Et donc, si tu mets un stent, ils ne vont plus fonctionner. Donc, ce n'est pas juste un organe souple, c'est un organe dynamique sur lequel il y a un fonctionnement relativement complexe. Et de mon point de vue, la meilleure façon d'envisager la guérison, mais certes, aujourd'hui, ça c'est une certitude, toutes les études ont montré que c'était la technique la plus efficace pour la guérison, puisqu'on a quand même des taux de guérison qui sont effroyables, hein, je veux dire plus de 90-95%. Mais à l'avenir, je pense qu'on va rester un petit peu sur ce protocole, sauf si un jour on réussit à trouver des médicaments qui permettent d'augmenter la tension lors de la respiration du pharynx.
Mmh. Ouais, je comprends. Et donc, cette métaphore de boîte à langue, elle est vraiment intéressante en fait. Quand tu dis que la boîte à langue, elle est pas assez large, quoi, elle n'est pas assez volumineuse.
C'est très, très important. Ça.
Quels sont
très important.
Les facteurs? Alors, tout à l'heure, tu as mentionné un peu le côté... évolutionniste, qui fait qu'on évolue avec une face qui se développe peu par rapport à un crâne qui se développe beaucoup. Mais il y a aussi des facteurs de développement pendant l'enfance, avec les gamins qui sucent leur pouce, la sucette. Quelle est l'influence de ces contraintes-là sur le développement de la
face?
Alors,
il y a effectivement les facteurs de risque, mais qui sont liés à l'évolution de l'espèce humaine, hein, d'un point de vue anthropomorphique, hein, phylogénétique. Bon. Ça, c'est simple. On a une face qui devient de plus en plus petite avec des arcades de plus en plus étroites qui font qu'on respire de moins en moins bien. Les facteurs de risque. Eh bien, si jamais on a une déglutition qui n'est pas physiologique et si petit à petit, au cours de l'enfance, ça, c'est un petit peu un cercle vicieux. Je te donne un exemple. La langue, c'est un organe qui va normalement, à partir de 5 ans, enfin après les 5 premières années, à être bien habitué à monter au niveau du palais pour que la déglutition soit physiologique. Maintenant, imagine que tu as un frein de langue. On va faire un truc tout bête. quelque chose, un petit frein, qui t'empêche de mettre la langue vers le haut. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ta déglutition ne va plus être physiologique. OK. En même temps, le maxillaire, qui doit se développer dans le sens transversal et qui a un développement transversal lié au positionnement de la langue, ne va plus s'élargir. Puisqu'il ne s'élargit plus, les fosses nasales vont être rétrécies, puisque les fosses nasales dépendent du diamètre du maxillaire. Donc, le maxillaire devient étroit. Et donc, la langue, elle va avoir de moins en moins tendance à aller dans un habitacle qui est étroit. Et elle va aller en bas et en avant. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va provoquer une ouverture de la langue. Donc, et cette ouverture de la langue, ça va provoquer une ouverture de la bouche. Cette ouverture de la bouche, elle va provoquer un relâchement du muscle géniogloss. Et c'est le cercle vicieux, c'est-à-dire que c'est l'apnée qui apparaît à tout point de vue. L'apnée apparaît dans ce cas-là, d'une part, parce que, un, le maxillaire est étroit, donc ça diminue le diamètre du pharynx. Deux, la langue n'est pas en bonne position, donc elle va avoir tendance à être refoulée vers l'arrière. Trois, la boîte à langue devient plus étroite, donc la langue va encore plus aller vers l'arrière. 4, la bouche va s'ouvrir avec une diminution de la tension du muscle géniogloss et donc un relâchement et une diminution du diamètre du pharynx puisque le géniogloss est un tenseur du pharynx par l'intermédiaire de la base de la langue. Donc c'est un cercle vicieux effroyable.
Je comprends bien ta logique, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le fait de sucer son pouce va être une stimulation justement à la croissance des maxillaires ? Et donc,
sucer son pouce, ça va provoquer une béance antérieure. C'est-à-dire que le pouce que tu mets entre les dents du haut et les dents du bas, ça va jouer. Tu sais, si jamais tu as quelque chose qui te tire les dents vers le bas, les dents du bas vers le bas, les dents du haut vers le haut, ça va être le pouce. Bah, qu'est-ce qui se passe ? Bah, les dents du haut, elles vont aller vers le haut. Les dents du bas, elles vont aller vers le bas. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu ? Eh bah, il y a un trou. Il y a une malocclusion. Une béance antérieure, et la langue, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben, elle va avoir les tendances à compenser l'espace. Elle va se mettre devant, entre les dents du haut et les dents du bas, quand tu déglutis. Donc la déglutition ne devient plus physiologique, et c'est le cercle vicieux qui recommence. Dès qu'on modifie un petit paramètre au niveau du visage, et en particulier au niveau de la bouche, par un épicentre, hein, ça peut être un frein de langue, ça peut être une mauvaise mastication, ça peut être une tétine portée trop longtemps, ça peut être des extractions de prémolaires, etc., etc. De cet épicentre s'ensuit une cascade de mécanismes physiopathologiques qui vont engendrer in finale l'apnée obstructive du sommeil, mais d'autres problèmes qui peuvent être excessivement sérieuses, comme des tensions musculaires, énormément de problèmes.
Ouais, c'est super intéressant. Ben, j'allais y venir à ces extractions dentaires parce que tu as dit aujourd'hui que c'était un facteur d'apnée du sommeil, en fait, le fait d'extraire des dents.
Alors, oui, alors pas toujours. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, bien sûr, il y a une bonne indication d'extraction primaire, mais d'une façon générale, quand même, il faut comprendre que si on a l'impression qu'on n'a jamais trop de dents, je veux dire, sauf des cas particuliers, c'est-à-dire que s'il y a un patient qui a 38 dents au lieu de 32, bon, bah, évidemment, je veux dire, on peut enlever les dents. Je veux dire. Mais si jamais on a le nombre de dents qu'il faut avoir, les dents sont jamais trop grosses, hein, d'un point de vue génétique. C'est souvent, on a l'impression qu'il n'y a pas de place pour les dents. C'est pas à cause des dents, c'est pas parce qu'il y en a trop. C'est parce que le maxillaire est trop étroit. Donc, si on va pour un maxillaire qui est trop étroit, par exemple, pour le problème que j'ai cité précédemment, parce qu'il y a eu un défaut de rééducation linguale. Donc, il y a eu un défaut de rééducation linguale. On a un maxillaire qui devient trop étroit et donc les dents se battent un petit peu en duel puisqu'elles n'ont plus de place pour pouvoir venir sur les arcades. Bah, si en plus, on enlève les dents pour pouvoir faire en sorte qu'elles soient bien alignées, mais ma foi, ça fait qu'on a une arcade qui est encore plus petite, avec moins de dents, et donc ça rétrécit, ça réduit la boîte à langue, et puisque ça réduit la boîte à langue, ça favorise l'apnée obstructive du sommeil. Alors pas nécessairement de suite, mais dans les décennies qui suivent.
Donc,
c'est un facteur de risque.
Et donc, l'orthodontiste, au lieu de se dire, bon, allez, on va enlever là, on va faire de la place, il pourrait se dire, mais j'imagine que c'est ce qui se dit, mais on va essayer d'influencer les dents pour laisser la place à celle qui pousse à l'arrière. Et en plus de ça, on va essayer d'écarter un petit peu le maxillaire. Enfin, il va avoir une philosophie un peu globale sur son,
oui,
sur sa stratégie.
D'ailleurs, les orthodontistes, enfin ceux que je connais, qui sont excellents, je veux dire, ils vont se dire, bon, effectivement, il y a ce problème transversal parce qu'ils sont conscients véritablement de l'apnée obstructive du sommeil. Donc, on va, chez l'enfant, augmenter le sens transversal du maxillaire. Et donc, peut-être qu'on pourra lui éviter d'avoir une apnée obstructive du sommeil ou peut-être le guérir de son apnée obstructive du sommeil. Chez l'adulte, c'est un petit peu plus compliqué. Ça devient nécessairement chirurgical. Mais il ne faut pas, de mon point de vue, sauf dans des indications très précises, enlever des dents sans savoir les conséquences que cela peut avoir.
Et donc, quand tu fais ces opérations, j'ai discuté avec une patiente dentiste omnipraticienne quoi, là, récemment. Et je lui disais, bah, je vais voir un gars à Paris, tout ça, je lui expliquais. Elle me dit, ah ouais, mais... Et elle se posait des questions sur l'occlusion. Mais je pense que je pourrais lui répondre. Elle me disait, mais comment ça se passe au niveau de l'occlusion après les opérations? Mais en fait, vu que tu agis sur le maxillaire, sur la mandibule, tu fais bien attention à ce que l'occlusion soit bonne.
Exactement, je m'arrange pour que l'occlusion soit très exactement la même. C'est-à-dire que l'occlusion avant l'opération est la même après l'opération.
Voire améliorée, comme tout à l'heure.
Voire améliorée, quand on peut l'améliorer, bien sûr.
Donc ouais, c'est un facteur que tu prends
C'est un facteur qui est bien sûr pris en compte et qui est excessivement important puisqu'il faut pas qu'il y ait de cercle vicieux. Donc il faut que la mastication soit bien et que les patients soient aussi heureux de mastiquer normalement. Donc il n'y a aucune différence entre avant et après en termes d'occlusion.
Ok. Et là, deux cas. Le patient écoute ce podcast, il a vu le titre du podcast que je vais mettre, guérir de l'apnée du sommeil avec la chirurgie, tu vois.
La guérison de l'apnée obstructive du sommeil. Je pense que...
Et voilà, on met ce titre, il écoute, il se dit, oh là là, mais moi, j'en peux plus de mon masque, je veux faire ça. Comment il fait? Il appelle ta secrétaire, il vient, il faut qu'il soit réorienté par le généraliste.
C'est
comment ça se passe?
Interdit complètement de m'appeler parce que vous avez écouté cette émission. C'est absolument pas déontologique. Vous en parlez à votre médecin généraliste, vous en parlez au médecin du sommeil qui s'occupe de vous, vous discutez avec lui, vous vous renseignez, vous en parlez au chirurgien qui est à côté de chez vous. Voilà.
Mais on parlait quand même tout à l'heure. Pendant la journée, de l'importance de la proactivité du patient. Moi, combien de patients, je leur dis, je les oriente directement chez le chirurgien, parce que leur généraliste, il n'en connaît pas, il ne sait pas exactement ce qu'il faut faire.
Ça dépend, non, il ne faut pas dire ça, ça dépend. Il y a des médecins généralistes qui sont vraiment bien.
Ah, mais bien sûr.
Et qui, c'est... Maintenant, c'est-à-dire que c'est différent. La société a changé. C'est-à-dire que, de nos jours, les patients se renseignent par eux-mêmes. Avant, il était inconcevable de recevoir un patient qui vient voir le docteur Dupont en disant « Écoutez, j'aimerais guérir de mon apnée obstructive du sommeil. » C'était pas concevable. Au jour d'aujourd'hui, les patients, ils se renseignent, il y a les réseaux sociaux, ils regardent YouTube, il y a les émissions de télévision, la radio, et ils n'hésitent pas à prendre contact directement avec le médecin qui leur semble plus adapté pour régler leurs problèmes. C'est l'évolution de la société, c'est comme ça. Donc les patients deviennent conscients de leur maladie et c'est un facteur excessivement important puisque moi, c'est peut-être que ça gêne certains de mes confrères, moi ça ne me gêne pas du tout parce que je trouve que c'est une force. Moi, j'ai appris mon métier, alors ça peut paraître très paradoxal, j'ai appris mon métier de mes patients. C'est en écoutant mes patients que j'ai été plus extrémiste dans ma façon de prendre en charge les apnées obstructives du sommeil. C'est en les écoutant que j'ai amélioré mes techniques. Certes, il y a 25 ans, je connaissais le professeur Hermann Seller, la rotation antihoraire, mais j'ai certains de mes patients qui m'ont dit « Écoutez, moi, je me suis renseigné sur telle technique qui est faite aux États-Unis. » Les patients se renseignent. J'ai vu des patients qui étaient
évidemment,
excessivement
ils souffrent comme des fous.
Ils souffrent
des
tellement
fous.
Que, voilà.
Heureusement.
Et donc, c'est en discutant avec eux. À chaque fois que je discutais avec un patient qui me donnait des idées, j'allais puiser, chercher, je voyageais, je rencontrais. Et je voulais vraiment. Pour moi, c'est une chance.
Et comment fait le patient qui en parle à son généraliste et le généraliste qui lui dit non, J'ai vu un congrès de l'apnée du sommeil récemment. On en parlera des congrès d'apnée du sommeil, si tu veux. Ouais. Et les recommandations sont si, ça, ça. Et il n'y a pas du tout la chirurgie dedans. Il faut bien qu'ils se débrouillent.
C'est un problème, effectivement. Il faut que les patients se débrouillent. C'est pour ça que je les invite à bien se renseigner par eux-mêmes. Parce que à l'heure actuelle, on a une petite tendance à dire, bon, vous avez une apnée obstructive du sommeil. Bon, elle est sévère. On va vous donner la machine à ventilation positive. Et éventuellement, si ça ne marche pas, on vous donne l'orthèse avancée mandibulaire. Et là où je suis scandalisé, bon, et je le suis vraiment, c'est que dans l'immense majorité des cas, un, on ne leur donne pas les inconvénients de la machine à ventilation positive sur le non-résolution des facteurs de risque sur le long terme, mais en même temps, on les culpabilise. Parce que certains patients, ils viennent, ils reviennent, ils disent « mais je ne la supporte pas, la machine. Ah bah très bien, et je veux la rendre. Ah ben non, ce n'est pas possible. Si vous la rendez, vous allez mourir. » Enfin voilà, on peut leur dire des choses comme ça. Enfin, moi, ce sont les patients qui me colportent ça. Ce sont pas, moi, je travaille avec beaucoup de pneumologues hein, qui sont des confrères extraordinaires. Mais il y a peut-être des fois une incompréhension. Et surtout, on ne leur dit pas « mais écoutez... il y a des alternatives. Essayons de regarder s'il n'y a pas une cause, une étiologie à votre apnée obstructive du sommeil. Et dans ces conditions, alors, une guérison serait possible. C'est-à-dire que là où j'en veux à un certain nombre de praticiens, c'est qu'il faut donner toutes les alternatives thérapeutiques. Et c'est aux patients de décider. On ne peut pas dire... Mais j'ai regardé, pour rebondir sur cette question... Même la Haute Autorité de Santé, qu'est-ce qu'elle dit la Haute Autorité de Santé? Elle dit PPC, orthèse.
Mais c'est justement pour ça, il y en a qui réfléchissent que comme ça. Si la HAS dit ça, on fait ça, basta. Ça. Sinon, t'es dans l'irrité, sinon t'es un charlatan. Sinon
pas, j'ai écrit à la HAS, ils m'ont jamais répondu. Si quelqu'un de la HAS m'écoute. Écoute,
il y a beaucoup de gens de la HAS qui écoutent, ça tombe bien.
Ah bah ça serait, bah écoutez, dans ces conditions, puisque vous écoutez, lisez le courrier que je vous ai fait. C'est, d'une part, c'est bénéfique pour les patients, mais c'est avant tout bénéfique pour les patients, parce que guérir c'est quand même, ça change la vie, mais aussi ça provoque des économies pour le système de santé français, parce que entre d'un côté louer une machine tous les jours, toute la vie, sans qu'il y ait une amélioration des facteurs de risque sur le long terme, avec toutes les pathologies associées qui peuvent arriver. Et d'un autre côté, une intervention chirurgicale, certes, qui a un coût, mais qui permet de guérir. Et puis après, on tourne la page, parce que c'est quand même des chirurgies qui sont constantes sur le long terme. C'est-à-dire qu'on a des taux de guérison. Certaines études ont montré que l'index d'apnée-hypopnée restait stable dans plus de 80% des cas après 20 ans.
Ça coûte combien une machine? J'ai entendu que c'était 3000 euros par mois, la machine à ventilation.
Je ne sais pas. Alors, je ne me suis jamais trop intéressé aux questions financières, mais c'est-à-dire, je ne me suis pas intéressé aux questions financières dans le détail, mais je sais simplement que le marché de l'apnée du sommeil et du trouble du sommeil est colossal. C'est plusieurs centaines de milliards d'euros. C'est énorme. Il est évident, je veux dire, faut pas le nier, je veux dire, ce sont les sociétés cherchent à entretenir les patients dans une dépendance, c'est évident.
Tu veux dire que les sociétés ne cherchent pas à guérir les gens de manière définitive et entretiennent la maladie au final?
Alors, ils ne vont pas faire de la... Alors, je vais dire les choses précisément. Les sociétés, c'est pas qu'elles vont pas... si elles avaient une solution pour la guérison, s'il y avait de l'argent à faire avec ça, ils le feraient. Mais ils ne vont pas développer des protocoles de recherche pour des guérisons radicales qui ne nécessitent qu'un seul temps et sur lequel on dise « Monsieur, vous êtes guéri, au revoir ». Ils vont développer des techniques où on va améliorer la santé des patients, mais où on va les entretenir avec une dépendance. Ça peut être d'un médicament, d'une machine, d'un moyen thérapeutique. Mais c'est un peu logique, puisque ce sont des entreprises à but lucratif. Donc, ils vont chercher ce qui est rentable pour eux.
Oui, mais j'imagine que les études sont pas toutes payées par ces sociétés. J'imagine bien que si une société qui gagne de l'argent en louant des machines à la ventilation, j'imagine bien que si elle finance une étude, il y aura un intérêt à ce que l'étude dise que la machine c'est bien, etc. Mais vous, vous pouvez peut-être faire des études entre vous et dire, bah attendez, regardez, il y a pas besoin de trop d'argent en fait. Il suffit juste de regrouper les statistiques de ce que
mais
vous faites.
Elles ont été faites. Les études multicentriques montrent très bien que les techniques d'avancée rotation antihoraire apportent des guérisons. Les statistiques jeunes ne sont pas des statistiques personnelles. Ce sont des statistiques internationales. Il suffit de taper dans le PubMed Medline que tout le monde connaît, que les médecins connaissent bien, et chercher les mots clés en anglais guérison, apnée du sommeil, chirurgie orthognatique, orthognatic surgery, sleep apnea, etc., etc., anti-rotation, vous tapez des mots-clés, vous voyez que qu'il y a beaucoup d'avantages sur ces guérisons. Je suis à l'heure actuelle en train de travailler sur une étude importante, dont je ne veux pas trop, parce qu'il y a beaucoup de choses, et j'attends d'avoir vraiment une très, 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 très grosse série pour pouvoir la soumettre. Mais de tout ce que j'étudie, je vois que les résultats sont excessivement probants, non seulement sur la guérison de l'apnée obstructive du sommeil en termes de disparition de la fatigue sans avoir besoin de prendre la machine, mais aussi sur les constantes biologiques avec une diminution de la tension artérielle, un LDL cholestérol qui diminue. Enfin, c'est quand même des choses qui sont assez extraordinaires et moi qui me remplissent vraiment d'une grande satisfaction de par le fait tout simplement que mes patients sont, je pense, après ce type de chirurgie pour les apnées obstructives du sommeil sont vraiment satisfaits et heureux, quoi.
Ouais. En tout cas, j'ai eu le témoignage de Thomas tout à l'heure, un de tes collègues que tu as opéré, qui était très très satisfait.
C'est ça,
Mais de toute façon, il y a une problématique qui sera indéniable, c'est-à-dire que si tout le monde a conscience du potentiel des opérations dont on parle, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas assez de chirurgiens pour les faire. Donc si, d'ailleurs, tu es d'accord avec ça?
Oh, c'est évident.
C'est évident.
C'est évident, puisqu'on a quand même... les demandes sont énormes. Je ne vais pas donner de chiffres concernant les demandes parce que j'en ai pas le droit d'un point de vue déontologique, mais les demandes de chirurgie pour guérir de l'apnée obstructive, là j'ai vu un boom, c'est fois 100% à peu près en quelques années, quoi.
Et donc admettons, je suis chirurgien dentiste, chirurgien maxillofacial. Bon, je fais pas mal de, je sais pas si on peut dire ça, mais d'esthétique, etc. Puis j'écoute le podcast et je me dis, oh, c'est vrai que j'ai envie de faire peut-être encore plus, entre guillemets, même si je veux pas juger ce qui est plus ou le moins, mais là c'est quand même une chirurgie qui change la vie des gens. On l'a vu tout à l'heure, la personne disait en consultation qu'il voulait se suicider, etc. Et j'ai aucun mal à imaginer que le manque de sommeil sur le long terme puisse provoquer des dépressions profondes, des suicides. J'en suis profondément persuadé. Bref, je suis chirurgien dentiste ou maxillofacial, je veux faire ce que tu fais. Comment je me forme?
Alors, il faut plutôt, c'est plus dédié à des chirurgiens maxillofaciaux. Il est toujours intéressant de voir, d'observer les chirurgiens qui ont l'habitude de réaliser cette technique chirurgicale. C'est la première des formations, que ce soit en France ou à l'étranger.
Donc je t'appelle, je t'explique mon projet, tu m'accueilles.
Ah oui, bien sûr. À partir du moment où c'est cohérent et où il y a une où je n'ai la possibilité, où ça ne me gêne pas dans mon exercice professionnel. Et mais d'une façon générale, je veux dire, alors il y a beaucoup d'opérateurs qui accueillent. Alors en général, on accueille un chirurgien parce qu'on peut pas être très très nombreux. Après, il y a aussi dans les centres universitaires, il y a certaines universités, j'en suis certain, certains hôpitaux pour lesquels il y a des formations et qui vont être de plus en plus importantes. Et bien évidemment, il y a aussi des formations privées qui vont apparaître. C'est, je pense, assez logique. J'ai des projets de formation au niveau international, mais bon, pour l'instant, ce ne sont que dans le stade de projet. Mais la première chose à faire pour un médecin qui souhaite apprendre ces techniques chirurgicales, c'est déjà de se renseigner et de faire un petit tour du monde des chirurgiens qui en ont une grande expérience. C'est ce qu'il faut faire pour vraiment bien progresser.
Tour du monde, c'est-à-dire aller en Suisse,
aller en Suisse, aux États-Unis ou en France. Voilà,
et ça, tu finances ça personnellement.
Ah bah bien sûr.
Parce que vous avez assez la culture. Alors désolé de vous critiquer.
Non, mais bien sûr, bien sûr.
Nous en ostéo, on est des entrepreneurs. Tu vois, on est des libéraux, etc. Vous, c'est la Sécu qui vous paye. Et j'ai l'impression que quand vous déboursez, quand il faut débourser de votre poche, les médecins. Et ben là tout de suite il y a les petites pinces de crabe.
Je sais pas, je parlerai pas pour mes confrères en ce qui
tu vois ce que je veux dire.
Oui je comprends ce que tu veux dire. Oui, je comprends très bien. Pour mes confrères je peux pas en parler, mais en ce qui me concerne, l'investissement est tout est réinvesti. C'est-à-dire, je cherche à réinvestir. Enfin, c'est obligatoire parce qu'on ne peut pas, progresser si on pense que l'on est excellent. Il faut penser que l'on est un excellent chirurgien, mais ce que je veux dire par là, c'est pas qu'on. Je me suis mal exprimé. On ne peut pas progresser si on pense que l'on ne peut pas progresser. C'est-à-dire que pour progresser dans le domaine chirurgical, il faut se dire OK, je vais améliorer ma technique. Et une fois que la technique a été améliorée, il faut remettre à plat et il faut avoir l'esprit d'un débutant. J'essaye à chaque nouvelle chirurgie d'avoir ce que j'appelle le beginner's mind.
Beginner's mind.
Ouais, exactement.
Of course.
C'est cet esprit-là du débutant. Tiens, comment je ferais si je n'avais jamais... Alors, mais en gardant dans une partie du cerveau, du cortex, l'expérience acquise. C'est-à-dire l'esprit du débutant avec l'expérience acquise.
Mais ça, le cerveau, il le fait automatiquement. De toute façon, l'expérience acquise, elle est toujours stockée.
Et, exactement. Et par contre, l'esprit du débutant, il ne l'a pas toujours. Et malheureusement, il l'a de moins en moins. Et je pense que, d'une part, ça permet de se réveiller le matin en étant heureux parce qu'on va apprendre des choses. Et ça, c'est magnifique. C'est ce que toi, tu vis. Parce que quand on discutait tout à l'heure, Étienne, c'était exactement le sentiment. Je te vois curieux de tout. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et tu rattaches tout à ton métier. Et moi, c'est la même chose. J'aime bien me renseigner, de voir ce qui se fait à l'étranger. Et de réfléchir aussi, parce que j'invente aussi de mon côté. Je travaille avec... sans les citer parce que ce serait pas déontologique, mais quelques sociétés sur lesquelles on essaye de progresser, de faire des simulations tridimensionnelles qu'on met au point. Je t'ai pas montré, mais pour favoriser les rotations antihoraires, j'ai utilisé des petits instruments un petit peu particuliers que j'ai fait faire en 3D. Qui sont avoués, qui ont été un échec, donc je recommence, c'est pas grave, je veux dire, on progresse, de temps en temps, mais bien sûr, c'est toujours dans l'intérêt du patient, et c'est toujours pour optimiser, c'est-à-dire pour faire en sorte que ce soit que dans 5 ans, j'espère que dans 5 ans, j'opérerai mieux qu'aujourd'hui. Normalement, de mon point de vue, le meilleur, il faut se faire opérer par un très bon chirurgien, évidemment, mais je ne serai le chirurgien lambda ne sera jamais meilleur que la veille de sa retraite. Quand il aura tout fait, à partir du moment où il a toujours gardé cet esprit, je dirais, de candeur, de d'émerveillement. C'est l'émerveillement qui est important, l'émerveillement du métier que l'on exerce.
Ouais. Ça me parle énormément et merci de dire ça, de partager ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et effectivement, l'investissement, c'est la base. Ouais. Je me revois discuter avec un médecin qui, après, c'est pas pareil parce qu'il était payé par l'hôpital et il attendait depuis 3 ans que l'hôpital lui paye une formation qui devait coûter 1000 euros. Quoi. Et j'étais là, mais attends, mais moi, rien que pour venir là, ça me coûte 1000 euros. Les patients que je vois pas, l'hôtel, machin, j'en ai pour 1000 euros pour venir voir.
C'est pour ça que j'ai fait que je travaille en libéral. Ouais. C'est pour ça, parce qu'au début, je travaillais à l'hôpital et je me suis bien rendu compte des difficultés et malheureusement du manque de moyens qui sont donnés à mes confrères hospitaliers. Bon, je me suis dit, tant qu'à faire, autant investir par soi-même. Mais personne n'est mieux servi que par lui-même.
Oui, sans être libéral, je comprends la difficulté de mettre des sous de sa poche pour en faire bénéficier l'hôpital qui te paye mal. Enfin, je comprends bien le problème.
Pour l'hôpital, c'est plus compliqué. Ils sont dans une situation qui est délicate. Il y a peut-être des services qui s'en sortent mieux que d'autres. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui sont à la charge du patient.
Yes. Est-ce que tu te considères comme un artisan ?
Ah oui, complètement. Je ne suis pas un intellectuel, je suis vraiment un artisan, ça c'est certain. C'est à 100%. Alors, ça peut faire ça peut choquer un certain nombre de patients, mais pour moi, l'artisanat, c'est si vous, je prends l'artisanat en reprenant un petit peu les discours de Chuang Tzu, qui est un philosophe chinois, mais hein, d'avant notre ère. Alors, je ne vais pas faire de philosophie ici, mais...
Ah si, on adore.
Ah bon, très bien. Et donc, où il décrit, c'est la philosophie taoïste, hein, où on décrit véritablement l'intelligence du corps. Et on a perdu un petit peu cette intelligence. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence à travailler avec ses mains. Et une intelligence qui est excessivement importante. Et qui est peut-être même plus fondamentale que l'intelligence de celui qui ne pense travailler qu'avec son cerveau. Et
clairement.
Et donc j'invite ceux qui nous écoutent et qui peuvent s'en étonner à lire les ouvrages, les œuvres complètes de Chuang Tzu qui en parlent très très bien. C'est magnifique. Et à un moment donné, il raconte un petit peu parce qu'en fait dans sa philosophie, il y a à la fois des quelques aphorismes et puis quelques explications et, où il interroge un petit peu beaucoup d'artisans. Et donc les artisans vont lui expliquer. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui m'avait étonné. C'était il interrogeait un boucher qui expliquait comment il travaillait la pièce, le bœuf pour le tailler au début, comment il prenait du temps. Et après, comment, à force de le faire, ça devenait presque un réflexe sous-cortical, mais c'est-à-dire de l'intelligence, une intelligence effroyable, et où, en fait, il travaillait tellement bien dans des plans de coupe qui étaient tellement, tellement parfaits qu'il n'avait plus besoin d'aiguiser son couteau qui était utile à la dissection. C'est incroyable. C'est incroyable.
C'est super. Et ouais. En ce moment, il y a un livre qui est très connu qui s'appelle La vie solide de Lockman. C'est un gars, un philosophe, mais qui a arrêté la fac et qui s'est reconverti en charpentier et qui explique exactement ça. Et je suis en train de lire tout ça.
Je lirai avec plaisir parce que c'est tellement important. Et je pense que la société dénigre tellement ce travail, mais c'est-à-dire qu'elle dénigre la plus grande part de l'intelligence de l'être humain.
Complètement, mais comme ce que je disais tout à l'heure, j'en parlais hier avec, il y a la librairie à Lyon, à Paris, qui s'appelle la librairie des Compagnons, en face de la cathédrale d'ailleurs qui est en train d'être reconstruite, et voilà, il y a tout un rayon sur l'artisanat, etc., et c'est super. Et je conseille aussi la lecture du livre « Ce que c'est la main », qui est exactement la thématique qu'on parle, de Sénette, je ne sais plus son prénom. Mais bref.
Et c'est magnifique aussi de rebondir sur la main, parce que la main, qui est une intelligence en elle-même, et alors il y a beaucoup de discussions à savoir, c'est la main qui crée le cerveau. C'est l'artisanat qui crée le cerveau. Pour te donner une expérience très simple, il y a une expérience qui a été faite. Où on a pris des intellectuels, toutes sortes de personnes, pas forcément intellectuels, mais bon, des personnes qui travaillaient, et puis on leur a dit, bon, écoutez, là, vous allez vous arrêter et vous allez apprendre à jongler.
Bien sûr.
Hein ? Ils ont appris à jongler pendant, je sais pas si tu connais cette étude, ils ont appris à jongler pendant 3 mois, je crois, et on s'est rendu compte que même à l'âge adulte, il y avait eu des nouveaux relais neuronaux. C'est-à-dire que le cerveau qui est paresseux, si tu l'oublies, il est paresseux, le cerveau. C'est pour ça que quand on vieillit, je veux dire, les gens qui se remettent pas un petit peu en question, bon, c'est un peu ce qu'on appelle un peu les vieux cons, hein, je veux dire. À côté de ça, il y a des personnes, il y avait un écrivain qui disait ce qui est difficile, c'est pas de vieillir, c'est de rester jeune. C'est ça la difficulté.
C'est Picasso qui disait ça.
Non, c'est pas Picasso. Oh, oui, Picasso, c'est pas lui. Ça vient pas de lui. Hein,
il dit qu'on est tous des artistes, mais qu'on.
Ouais, non, c'est pas lui.
Avec l'âge, on arrête d'être des artistes.
et donc, à partir du moment où on va obliger le cerveau à rentrer dans un inconfort, à travailler sur un modèle dont il n'a pas l'habitude, eh bien, il n'aime pas, mais par contre, il se développe et il s'hypertrophie. Et au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il va créer des nouveaux réseaux. Et cela, c'est vraiment intéressant. Et c'est aussi un moyen de le faire par l'intelligence du corps, par l'intelligence du geste, par l'intelligence de l'artisanat. Donc pour répondre à ta question, à 1000%, je suis un artisan.
Parfait. Et pour compléter un peu pour ceux qui écoutent, ça c'est en fait ce que tu racontes, c'est la base de ce qu'on appelle le brain gym. Et on en parle dans un podcast avec Paul Landon, qui est le spécialiste français des réflexes archaïques et qui explique comment l'intelligence cérébrale, entre guillemets, peut se développer via l'intelligence motrice. C'est exactement ce que tu dis.
Ah, bah, c'est génial.
Et je comprends pourquoi tu as aimé le podcast avec Fanny Nussbaum aussi.
Exactement.
Que je salue au passage. Bon, bah, c'est génial. Je suis content de finir sur ces notions philosophiques. Ça, bah, écoute, ça donne toujours du,
ouais,
du piment au podcast.
Ouais, ça, et puis ça te donne la pêche pour retravailler de nouveau.
Ouais, parfait. Bon, merci Eric. Et puis, bah, écoute. À une prochaine, t'as un petit mot de la fin ?
Ouais, bah, d'une part, merci Étienne, j'ai adoré ta façon de voir les choses, j'adore ta curiosité. C'est pas évident quand même, faut le dire aux personnes qui nous écoutent, hein, d'arriver au bloc opératoire, c'est quand même des interventions qui sont bon, qui durent un certain temps, qui sont pas faciles, et je vois, j'ai vraiment vu en toi, et ça m'a fait plaisir, et j'adore discuter comme ça, parce que c'est de la curiosité, Après, un mot de la fin, il y a celui-là qui est un petit peu tourné autour de toi, mais aussi, il ne faut pas, pour si certains patients présents qui m'écoutent, et ce n'est pas le but de ce podcast, mais qui ont une apnée obstructive du sommeil, il faut jamais penser qu'il ne faut jamais se décourager. Il y a toujours des solutions, quel que soit le problème. Ça va au-delà de l'apnée obstructive du sommeil. D'un point de vue médical, il faut toujours penser qu'il y a toujours des solutions. Je ne dis pas que tout est toujours facile, mais il ne faut jamais perdre espoir de la possibilité d'envisager des guérisons dans les domaines de pathologies auxquelles nous serons tous les uns les autres confrontés. Voilà,
ouais, c'est super. Et moi, j'ai un petit mot de la fin aussi. Donc, je connais un paquet de dentistes, donc je vais évidemment me renseigner. Mais s'il y a des Lyonnais ou des gens qui connaissent des gens qui font ça sur Lyon, je suis preneur de contact. Et donc, voilà, vous pouvez m'envoyer un message. C'était mon petit mot de la fin. Et merci, Eric, pour ton ouverture ta jeunesse d'esprit qui transpire malgré ton âge qui est sur le papier plus si jeune. Mais ton expérience, on va dire. Merci, Eric. À bientôt.
Merci à toi. Merci. Merci à vous tous.
Bravo, tu as écouté cet épisode de Et surtout la santé jusqu'au bout. Donc pour booster ce projet qui a pour but de te donner les meilleures infos possibles sur le thème de la santé, je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc merci encore. Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Étienne Bulidon. Et évidemment, si l'ostéopathie peut t'aider, tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon. Si je ne suis pas disponible, c'est Loïc ou Mathéo qui te prendra en charge. À bientôt et bonne fin de journée. Ciao.